On vient d'évoquer avec Dominique Lapointe la disparition du grand paléontologue américain Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould qui a fait de la science, beaucoup de science, de la très bonne science, et aussi, bien sûr, on l'a entendu avec Dominique, de la vulgarisation, beaucoup de vulgarisation. Alors Yves Gingras, et aussi de l'histoire un peu de la paléontologie, Yves Gingras comme historien des sciences à l'Université du Québec en Montréal. Bonjour Yves, bon retour.
Bon retour à vous aussi.
C'est ça.
Ça fait plaisir.
Alors, ça vous a donné l'idée, Yves, de réfléchir un peu plus loin là, sur cette relation entre les scientifiques et les vulgarisateurs, les scientifiques, quand ils font de la vulgarisation?
Oui, parce que ça, c'est une question qui est intéressante. Parce qu'on s'aperçoit, surtout à travers une figure comme celle de Stephen Jay Gould, qui est sans conteste, on peut dire, au cours du dernier demi-siècle, le plus grand vulgarisateur des sciences de la vie depuis les années 50. Hein? Et on sait qu'il a tenu une chronique pendant plus d'un quart de siècle dans la revue Natural History. Au fond, ses multiples livres sont la mise en page, si on peut dire, de ses chroniques.
Avec des titres merveilleux,
mensuelles.
Le pouce du panda, oui, le sourire du flamant rose, etc.
Et oui. Ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de voir un peu de sociologie élémentaire de la crédibilité. C'est que des scientifiques reconnus dans leur domaine, en astrophysique, on peut penser à Stephen Hawking,
par exemple,
qui a fait le fameux livre « La brève histoire du temps ». Et ou même en physique, un prix Nobel de physique, Stephen Weinberg, qui avait écrit « Les trois premières minutes de l'univers ».
Oui.
Donc, il y a cette idée qu'un scientifique très reconnu part avec une longueur d'avance sur le vulgarisateur moyen qui, sur le plan peut-être de la qualité, pourrait faire un travail très bien, très pédagogique, très compréhensible et parfois même plus compréhensible. Mais l'avance du scientifique, c'est qu'il est crédible dans son domaine.
Il a un capital de crédibilité.
Un capital de crédibilité accumulé, capital symbolique qu'on appelle nous en sociologie des sciences, qui le met une longueur d'avance et qui lui permet donc d'être beaucoup plus vendu, beaucoup plus lu aussi, parce qu'on dit qu'il doit savoir de quoi il parle. Ce qui est bien sûr, on espère, le cas.
Oui.
Il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que d'un côté, donc, les grands savants partent une longueur d'avance, mais aussi, cette crédibilité du savant-là est tellement vraie qu'on a des cas inverses. À contrario de ce qu'on vient de dire sur Gould, ce serait quelqu'un, un scientifique, et je pense à l'histoire de Jean Rostand, qui, un de ses premiers livres de vulgarisation, portait sur l'hérédité. À un moment où il était lui-même inconnu et il s'est fait rebrouer par les grands savants qui ont dit « Mais qui es-tu, toi? » pour faire, au fond, une première vulgarisation de l'hérédité où tu parles des chromosomes et des gènes. Donc, la communauté scientifique ne le considérait pas comme un porte-parole légitime qui pouvait donc porter la bonne parole.
Il n'avait pas accumulé assez de capital symbolique.
Exactement.
Je retiens bien la leçon, Yves. Hein?
Plusieurs années après, on connaît tous Jean Rostand, qui est devenu aussi lui-même un grand vulgarisateur et beaucoup plus grand qu'un scientifique, au fond. Et là, ça nous amène à un deuxième aspect qui est l'interaction, si on peut dire, entre le travail savant qui se fait d'ailleurs entre les pairs dans le champ scientifique et la visibilité
des publications savantes, etc.
dans des revues comme des paléontologie,
des congrès, etc.
Des congrès. Oui. Et la connaissance extra-scientifique médiatique. Un gars comme Jean Rostand, c'est pas un grand scientifique. On peut pas dire que Jean Rostand est reconnu aujourd'hui comme un grand biologiste.
Exactement, non.
Mais il y a une crédibilité plus grande par effet de sa crédibilité de vulgarisateur où ça interfère ensemble de façon positive dans ce cas-là.
Ce qui veut dire que faire de la bonne vulgarisation et devenir un peu une vedette du milieu de la vulgarisation, ça peut aider le scientifique à avoir l'air d'un plus grand scientifique.
Oui, et on pense que, et certains pourraient dire que dans le cas de Gould, qui est reconnu surtout pour sa fameuse théorie de l'équilibre ponctué, il est à peu près certain que, il n'y a aucun doute là, que Gould est un grand paléontologue au 20e siècle. Mais la reconnaissance de sa théorie de l'équilibre ponctué est plus grande probablement que ce qu'elle aurait été si Gould n'avait pas été un de ses grands vulgarisateurs, un de ses grands diffuseurs qui, en même temps, en profitait pour diffuser sa théorie et qui peut donner l'impression que la théorie de l'équilibre ponctué est beaucoup plus reconnue par la communauté scientifique qu'elle ne l'est réellement, ou c'est un débat qui est encore en cours. Hein. Quelle est la proportion d'évolution purement darwinienne graduelle et quelle est la proportion d'évolution ponctuée, donc discontinue? C'est un débat en cours.
Exactement,
parmi les
ouais.
savants. Et donc, ceux qui sont plus critiques de Gould auraient tendance à dire que le capital accumulé comme vulgarisateur donne une mauvaise impression à l'acceptabilité et l'acceptation actuelle de l'équilibre ponctué. Donc, il y a une interaction entre les deux.
Donc, la vulgarisation sert le scientifique et, comme la science, sert le vulgarisateur, au fond. C'est un peu ça que vous dites.
Oui. Par exemple, on pourrait penser que plusieurs pourraient se dire Stephen Hawking, par exemple, devrait avoir le prix Nobel de physique.
Oui.
Certains pensent qu'il l'a eu. Et certains pensent qu'il l'a eu. Mais bien sûr, il ne l'a pas eu. Parce qu'effectivement, si on regarde les contributions scientifiques de Stephen Hawking, sont assez importantes, mais en termes de prix Nobel, ça prend des choses plus précises.
Elles ne sont pas nécessairement du niveau du Nobel.
Mais ça l'amène à être nobelisable parce qu'il est aussi très connu. Mais c'est aussi un grand savant. On ne doute pas sa grandeur, mais on ne chie pas sur le détail qui fait est-ce qu'il est nobelisable ou non. Mm-hmm. Il n'est peut-être pas impossible qu'il y ait une interaction avec le fait que ces gens-là sont très connus en dehors même de leur communauté scientifique.
Alors, Yves Gingras, j'ai rappelé tout à l'heure donc, que vous êtes historien des sciences et on en parle ô combien d'histoire des sciences ici. Et Stephen Jay Gould aussi a fait de l'histoire de la paléontologie à travers ses livres de vulgarisation. Donc là aussi, histoire des sciences, vulgarisation, les gens font ça, les chercheurs font ça. Mais on va se dire, finalement, c'était un hobby. Ils font ça pour s'amuser, pour raconter l'histoire de leur discipline.
Effectivement, la question est bonne. Et moi, je pense que dans le cas de quelqu'un comme Stephen Jay Gould, sa compréhension de l'histoire conceptuelle de la théorie d'évolution est intimement reliée à sa réflexion sur la théorie actuelle de l'évolution. Mm-hmm. Je pense que ce n'est pas un hasard. C'est son grand livre qui est son testament, qui est celui qui vient de paraître, qui a 1500 pages auprès de l'Université Harvard, dont le titre est, si je me souviens bien, « La structure de la théorie de l'évolution
». Un livre savant.
Un livre savant, qui contient à la fois des aspects d'histoire des sciences et la réflexion sur l'état actuel de la théorie de l'évolution. Donc, d'autres savants aussi qui avaient une bonne compréhension de ce qu'est l'évolution d'un concept les amènent à avoir une meilleure compréhension de leur science elle-même. Donc, ce n'est pas nécessairement, et ça ne devrait pas être uniquement un hobby, mais une façon de comprendre, on pourrait dire, les fondements de sa propre science. Et des gens comme Weinberg qui s'intéressent à ça voient très bien que ça lui permet d'assez bien comprendre souvent l'apparition d'un concept ou les controverses scientifiques autour d'un concept. Donc, une forme de réflexivité, c'est-à-dire de réflexion sur sa pratique actuelle à partir d'une approche à travers l'histoire des sciences qui devient à la fois une vulgarisation de la science aussi.
Yves Gingras, pour ce nouveau beau plaidoyer en faveur de l'histoire des sciences, historien des sciences, sociologue des sciences, Yves Gingras, je vous remercie beaucoup.
Ça fait plaisir.